Processus,
le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.
Saison 2, épisode 8. Simon Snake Boisvert avec son Tommy Hilfiger turquoise. Bonjour.
Salut Mathias.
Pag, Pierre-Alexandre Girard. Écoute, bonne fête. C'est ton anniversaire samedi. Simon et moi, on se demandait si tu t'étais déplacé pour l'occasion.
J'ai pris un Uber, mais par contre, j'ai pas demandé au chauffeur s'il avait magasiné son Uber sur CarGurus. Processus est une présentation de CarGurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur CarGurus.ca. On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique.
Pag, tu sais qu'il a failli ne pas avoir de balado cette semaine.
Non, comment ça?
Parce que Simon est allé voir la rencontrée de la direction, puis il a dit que s'il n'y avait pas un chandail accroché de Lynn Hudson pour le prochain épisode, il ne participait pas. Alors, on voit que tu as du poids, bravo.
Je viens juste de l'apprendre.
Très fort.
Simon, Canadien, Flyers hier, et je t'ai texté, puis j'ai dit, ça pourrait être d'actualité, puis dans nos cordes, de se dire à tes yeux, quelle est la meilleure reconstruction à ce jour entre celle des Flyers et du Canadien? Du moins, laquelle préfères-tu au point où on en est en ce moment?
OK. Ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regrouper les différents aspects d'une reconstruction, c'est-à-dire faire différents blocs de joueurs des deux côtés pour essayer de juger dans la balance qui avait l'avantage, puis après ça, de faire une genre de pondération de tout ça.
Depuis quand tu fais de la pondération?
J'ai toujours fait de la pondération.
OK.
Bon. Alors, on va commencer.
C'est-tu serré ou c'est pas serré?
C'est plus serré que toi, tu penses.
OK.
OK? Puis je vais te dire pourquoi. Bon. Alors, juste une petite chose à...
Un préambule?
Oui, non pas un préambule, mais juste peut-être une genre de petite précision que je veux faire aux auditeurs. C'est que tout ce qu'on dit aujourd'hui peut évidemment changer de bord si une ou l'autre des équipes gagne une loterie d'ici un an ou deux.
Oui, mais les deux peuvent la gagner, là.
C'est ça. Alors, parce que les deux sont faibles, et en ce moment, je pense que les Flyers, cette année, sont encore plus faibles. Alors, les chances des Flyers d'avoir un choix top 2, top 3 sont très, très grandes. Mais on va y aller avec ce qu'on sait en date d'octobre 2024.
Ouais, parce que Martin Saint-Louis te dirait 9 matchs de jouer, Simon.
Voilà.
9 matchs de jouer.
Voilà. Mais les Flyers, c'est pas impressionnant. Bon. On va commencer par les choix de repêchage. Les Flyers ont 3 choix en 2025. Le leur est celui de Colorado-Edmonton. On peut s'attendre à ce que ce soit des choix Colorado-Edmonton en fin de première ronde. Le Canadien a 2 choix, si on le sait. Le leur est probablement celui de Calgary.
Qui serait 23e aujourd'hui à peu près, mais qui est appelé à descendre.
Qui est appelé à descendre, c'est ça. Bon. Alors, on va y aller un peu avec les joueurs. Moi, j'y suis allé avec le premier bloc. Les joueurs qu'on peut appeler qui ont 23 ans et plus, mais qui sont pas encore des vétérans en fin de carrière. Donc, j'appellerais ça des joueurs aguerris. Sous contrat pour quelques années.
De 23 à quel âge?
Moi, je te dirais à peu près 28.
OK.
27, 28.
Oui.
Alors, tu vois, du côté des Flyers, moi, j'en ai noté 4. Il y a Owen Tippett, sous contrat jusqu'en 2032. Travis Konecny, 2033. Joel Farabee, 2028. Et Morgan Frost, qui, lui, est agent libre après 2026. À noter. Du côté du Canadien, j'en ai noté 5. Nick Suzuki, Cole Caulfield, Kirby Dach, Alex Newhook, et j'ajoute quand même Patrick Laine, même s'il va être agent libre en 2026, il a seulement 26 ans, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'essence dans le réservoir.
Bon. OK.
Alors, de ce côté-là, moi, je dirais que j'aime les deux groupes. Je donnerais quand même un léger avantage aux Canadiens, mais à cause du fait que Caulfield est, c'est un marqueur de but. Nick Suzuki, c'est un joueur qui est aguerri. Ce que j'aime bien du côté des Flyers, moi, Owen Tippett, toujours un de mes joueurs préférés. Travis Konecny, année après année, très régulier. Et Farabee, c'est quand même un bon joueur. Frosh, je l'aime un peu moins.
C'est quoi le plafond de Farabee et de Tippett?
Je te dirais que Farabee, son plafond a été atteint. Alors, ce que tu vois de Farabee, c'est ça.
C'est quoi, 21-22 buts?
Ouais, c'est ça, un bon joueur. Et puis, mais un joueur quand même que tu vois, là, tu sais, il a quand même un certain impact là, sur l'équipe. Owen Tippett, là, il a seulement un but cette année, mais l'année passée, très bonne saison.
Okay.
C'est un gars qui, d'après moi, est un gars physique, un ailier physique qui peut marquer au moins 30-35 buts. Alors ça, ça a été un excellent échange des Flyers avec les Panthers de la Floride.
Prends-tu Doc ou Farabee?
Je te dirais que, considérant le potentiel, je prends Doc, mais je suis inquiet des blessures à Doc.
Parfait.
Bon. Alors après ça, je suis allé avec ce qu'on appelle les jeunes joueurs.
Ouais.
Les 23 ans et moins, mais qui sont dans la Ligue nationale. Alors, du côté des Flyers, évidemment, tout seigneur, tout honneur, Matthew Michkov.
Oui.
On a exactement Tyson Forster, un ailier de puissance que j'aime bien, un gars qui peut faire un 25 buts et qui est très physique. Et Bobby Brink, un attaquant petit format que je vois plus comme un joueur de troisième trio.
Ouais.
À la défense, trois gars à noter du côté des Flyers. Cam York, 23 ans. Bon, mais pas exceptionnel.
Ouais.
Emil Hendrick, 22 ans, qui commence. Correct. On verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et Jimmy Drysdale, qui est enclin aux blessures.
Faible
physiquement, pas très fort défensivement, mais qui a quand même des belles habiletés offensives qui peut-être justifient pas son haut rang de sélection, mais c'est quand même un gars qui, utilisé intelligemment, peut contribuer. Mais
Sanheim est rendu à quel âge, là? Et tu l'as pas mis?
22. Ah, Sanheim?
Oui.
Non, il est à 28.
OK.
Alors lui, je le considère même dans les vétérans avancés.
OK.
Prochaine catégorie.
Oui.
Bon, chez le Canadien, du côté des attaquants, ça se limite pas mal à Slavkovski. On peut rajouter Kapanen et Heinemann, mais ni l'un ni l'autre, selon moi, est un joueur d'impact.
Okay.
Chez les défenseurs, il y en a beaucoup chez le Canadien. Il y en a 6 qui ont entre 20 et 23 ans.
Ouais.
Il y en a 2 qui ressortent du paquet. Évidemment, c'est Hudson et Goulet.
Ouais.
Goulet, beaucoup de blessures. Alors, pour ça, on ne doute pas de son jeu, mais on doute de sa fragilité. Hudson, la date, l'échantillon du mois d'octobre, il est excellent. Oui, il y a eu des mauvais matchs. Oui, il a fait des revirements. Mais il a quand même créé beaucoup de choses en attaque. Bon. Mayou, tu connais mon opinion sur Mayou?
Tu connais la mienne aussi.
C'est ça. Alors, je pense qu'un retour à Laval est de mise.
Ça a été, d'ailleurs, en fin de semaine, ça a été extrêmement difficile défensivement.
Ah oui.
Extrêmement difficile.
Et les Barons, Struble et Jacky, bien ça, écoute, je pense pas, je vois pas aucun joueur d'impact parmi ces trois-là.
OK.
Mais alors, de ce côté-là, je pense que du côté des jeunes joueurs établis, je donnerais un léger avantage aux Canadiens justement par l'impact que Slavkovski et Hudson peuvent avoir, alors que de l'autre côté, il y a vraiment seulement Michkov.
Oui, bon. Je comprends.
Bon. Les vétérans maintenant. Du côté des Flyers, Sean Couturier jusqu'en 2030, 31 ans. Travis Sanheim, 28 ans jusqu'en 2031. Risto Ruotsalainen, 30 ans jusqu'en 2028. Canadiens, Madison, Anderson, Gallagher, Armia, avantage aux Flyers de ce côté-là, parce que les gars sont quand même encore sous contrat pour quelques années. Ils ont encore un peu de quoi donner, alors que le Canadien, ben, on attend que les contrats d'Anderson, Gallagher expirent.
OK.
Bon. Devant les buts.
Dans une reconstruction, ça m'importe moins.
Moi aussi, ça m'importe moins, mais je veux quand même me mentionner parce que les gars des Flyers sont quand même sous contrat pour plusieurs années et peuvent quand même donner quelques bonnes années pour épauler. Tu sais, à un moment donné, au lieu d'être obligé de signer des joueurs, tu vas les avoir, ces joueurs-là. Okay. Le seul problème, c'est qu'éventuellement, est-ce que Couturier et Sanheim vont être des contrats boulets en raison du fait que leur performance pourrait être inférieure à leur salaire?
Oui,
mais je l'aime, quand même, Couturier, encore mais jeune, il y a eu des blessures, il y a 31 ans. Donc, mais comme tu dis, c'est pas vraiment un gros impact dans une reconstruction, mais je voulais le mentionner.
C'est sûr que si Torrey Krug ne refuse pas l'échange aux Flyers, Philadelphie se retrouve avec 2 choix de premier tour pour Sanheim. Et là, ça change complètement la reconstruction.
Complètement.
Ouais.
Du côté des gardiens, qu'on inclut les gardiens actuels et futurs, je pense qu'à ce moment-là, c'est avantage net aux Canadiens. Déjà, Samuel Montembeau est meilleur que n'importe quel gardien des Flyers, que ce soit Ersan, Fedotov ou Kolosov. Et du côté de la relève, bon, Primo, tu connais mon opinion.
Ouais.
Je le vois pas là. Mais Dobesch pourrait être un numéro 2. Et évidemment, il y a le fameux Jacob Fowler qu'on attend avec impatience. Du côté des espoirs, il y a deux gardiens russes.
Oui, c'est ça.
Que, de 19 ans, dans les deux cas. Yevgeny Volokhin du Canadien et Yegor Zavrygin du côté des Flyers. Deux gars qui jouent en 19 ans. Je dois te dire que Volokhin, très difficile cette année, même si l'échantillon est mince. C'est pour ça que ça fluctue, les gardiens. Zavrygin, cependant, lui, très bon début de carrière en KHL.
Okay.
Mais les gardiens de 19 ans en Russie, on est loin, 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 loin d'être capable de prédire leur avenir.
OK.
Finalement, l'avant-dernière catégorie.
L'avant-dernière?
Hein? Oui, il y en a une dernière.
Okay.
Ben, je vais même commencer par la dernière.
Ouais.
Le DG.
Ah, OK.
C'est important.
Oui.
Dans une reconstruction. Brière contre Hughes.
Oui.
J'aime les deux.
Parfait.
Alors, pour moi, c'est égal.
Oui.
Brière, comme tu dis, il y a eu l'histoire de Tory Crew qui ne l'a pas aidé. Et également, je m'en voudrais de le mentionner, de ne pas le mentionner, Cutter Gauthier, repêché par les Flyers, n'a pas signé avec eux. C'est la faute à qui, je ne le sais pas. Mais c'est évident qu'en échangeant Gauthier contre Drysdale et un choix de deuxième ronde, les Flyers seraient perdants.
Oui.
Alors ça,
c'était perdu d'avance.
C'était perdu d'avance. Dernière catégorie, ben, qu'on aime beaucoup, dont on aime beaucoup parler, les recrues, ben, c'est-à-dire les espoirs.
Est-ce que c'est la catégorie, à tes yeux, la plus importante dans ton analyse?
Le DG?
Non. Les espoirs.
Je te dirais que oui, mais combiné avec les jeunes joueurs.
OK.
Parce que Mishkov et Slavkovski et Hudson sont déjà dans la
LNH.
Ils pourraient rentrer dans cette catégorie-là. Mais dans les espoirs, du côté des Flyers, je dirais qu'à l'attaque, c'est mince. On a Jet Luchenko, 18 ans, qui a commencé l'année à Philadelphie, qui vient d'être retourné au junior.
Et on a dit, on espère qu'il développe davantage son potentiel offensif. Tu en avais parlé déjà que toi, tu avais certains doutes sur le potentiel offensif.
Oui, et c'est pour ça que je trouvais que les Flyers auraient dû y aller avec un défenseur au repêchage. Ou même avec le fameux, je ne le mentionne pas chaque semaine maintenant, Trevor Connelly.
Oui, on va en parler bientôt d'ailleurs.
On va en parler tantôt. Tout à l'heure.
Oui.
Pas grand-chose d'autre à l'attaque. Jack Berglund, un Suédois, 18 ans. Denver Barkley, un très petit joueur des Knights de London. 100 points l'an passé, mais très frêle physiquement. À la défense, j'aime bien quand même Oliver Bunk.
Oui.
Choix de première ronde il y a 2 ans. Retourné à London. Lui, d'après moi, l'an prochain, devrait avoir un poste à Philadelphie. On ne parle pas ici d'un joueur étoile, mais on parle, d'après moi, d'un solide défenseur top 4.
Okay.
Spencer Gill également, de l'Océanique de Rimouski, qui se développe bien. Encore là, on est loin de la LNH dans son cas, mais je ne le déteste pas. Bon, du côté des Canadiens, et c'est là que le Canadien se démarque, ne serait-ce qu'avec Ivan Demidov.
Oui. D'ailleurs, Pac, ne m'as-tu pas dit que Demidov aujourd'hui est en feu? J'ai pas.
Ah oui. Ah oui.
Il y avait eu un. Voyons. J'ai juste highlight en tête.
Oui. Les faits saillants.
Il a fait une passe extraordinaire à Kuznetsov cet après-midi. Puis là, il a été nommé pour une deuxième semaine de suite comme étant la recrue du mois dans la cage.
C'est un point aujourd'hui?
La recrue de la semaine.
La recrue de la semaine, deux semaines de suite.
Okay. Exact.
Alors, évidemment qu'avec Demidov, ça change tout. Là. Demidov et Luchenko, c'est pas comparable.
Non.
D'ailleurs, si les Flyers avaient été un peu moins bons l'an dernier, comme on le prévoyait, ils auraient peut-être obtenu un gars comme Demidov.
Oui.
Parce qu'on le voit que l'année passée était un peu une aberration parce qu'ils sont revenus dans la cave cette année et d'après moi, vont y rester. Michael Hage, un autre espoir du Canadien de premier plan.
Là, tu en as nommé, t'en as nommé deux et un du Québec, pour les Flyers.
Et Jérôme Bakker, qu'on attend.
OK.
Malheureusement, il perd une année à cause d'une blessure.
Ouais.
Ça, ça nuit. Mais c'est quand même un choix top 5 qui avait démontré des belles choses à Laval l'an dernier.
Là, tu as nommé Gill.
Oui.
Tu nommes pas Joshua Roy?
Ben non, mais là, je suis dans le Canadien, là.
Ah, je pensais que tu avais fini.
Non.
Mais tu as nommé tes attaquants, puis après, tu as dit Ryan Backer.
Non, mais je suis allé avec les tops.
Okay,
après ça, on y va dans les joueurs, peut-être, de deuxième plan, si on veut. Alors, évidemment, Joshua Roy, retourné à Laval.
Ouais.
À date, je te dirais qu'il joue bien, mais il ne joue pas nécessairement assez bien pour mériter un rappel.
OK.
Owen Beck, pour moi, quatrième centre.
Oui, oui.
Bon, c'est bon. Philippe Méchard, je ne vois pas un grand avenir pour lui. Je sais qu'il y a un bon début de saison, je suis conscient de tout ça. Mais je n'ai pas changé d'idée. Il y a des points, mais je ne vois pas des qualités transposables pour jouer sur un top 6 dans la LNH. Et c'est un gars que s'il ne joue pas sur un top 6, il ne sert pas à
grand-chose. Et là, c'est plusieurs mois d'absence d'ailleurs.
Oui,
ouais.
On l'a vu aujourd'hui. Alors ça va nuire, mais peu importe. Alors, puis pour finir avec les défenseurs du Canadien, Adam Engstrom, 21 ans, à Laval, débrouille pas si mal. Et Bogdan Konushkov, dont on nous parle souvent de lui, un joueur un peu caché en Russie, dans la KHL. Est-ce qu'il va venir éventuellement? Je ne le sais pas. Et comme on a dit tout à l'heure, du côté des gardiens, ben, ça ne se compare même pas parce qu'il y a Jacob Fowler. Donc, je donne un léger avantage aux Canadiens.
Léger?
Oui, je donne un léger avantage aux Canadiens parce que les Flyers sont quand même en train de se monter une équipe qui...
Non, mais attends, là.
Oui.
Dans la catégorie espoir.
Ah! Gros avantage aux Canadiens. Énorme avantage.
Donc, dans quatre catégories, le Canadien est avantagé trois fois, dont un gros avantage dans une catégorie très importante.
Oui.
Et là, tu me parles de léger avantage.
Oui, parce que moi, je regarde l'ensemble de la construction des Flyers qui est en train de se faire. Et je pense que les Flyers sont en train quand même de construire une équipe qui va être très physique, en plus d'avoir du talent. Et ça, en série, il faut le considérer. Okay. Alors, j'aime quand même la vision où les Flyers s'en vont. Dans les deux cas, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait leur preuve.
Ouais.
Alors, tu sais, il faut quand même être prudent avant de proclamer qu'une reconstruction est nécessairement 10 000 avant celle de tout le monde.
Ouais.
J'aime beaucoup la reconstruction d'Anaheim. Je la préfère à celle du Canadien.
Si tu m'avais dit Anaheim ou un autre, Philadelphie,
Non, mais écoute, là, je te l'explique. Anaheim, une reconstruction que je préfère de beaucoup à celle du Canadien de Philadelphie.
Ouais.
Mais malgré tout, j'ai regardé tous les matchs d'Anaheim cette année.
Ouais.
Et je commence, même s'il ne faut pas réagir de façon excessive, je commence à avoir certains doutes.
Okay.
Une couple d'affaires qui me dérange. Alors, tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop blanc ou noir avant de proclamer des futurs champions de Coupe Stanley, des futures grandes équipes. Tout ce que je peux te dire, c'est que le Canadien est sur la bonne voie. Où ça va se rendre? On ne sait pas.
C'est qui, chez le Canadien, tes cinq joueurs, tes cinq meilleurs espoirs aux joueurs de 25 ans et moins? Faut que tu ailles Suzuki, Demidov.
Suzuki, Demidov.
Slavkovski.
Slavkovski, Hudson et Caulfield.
OK. C'est qui les cinq des Flyers?
De 25 ans et moins.
Ouais.
OK. Donc, on enlève un Konechny ou un joueur comme ça. Bon, je te dirais évidemment Mishkov, Forster, Oliver Bunk, Tippett. Et là, j'hésite entre Farabee ou York.
C'est même pas proche.
Non.
C'est même pas proche.
T'as raison, Mathias. T'as raison. Mais comme je t'ai dit...
Tu sais, c'est ton talent
tout
élite.
Ça, oui, mais ça, c'est sûr que le talent élite est important. Mais je te dis juste que tout ça est un tout.
Parce que Caulfield est cinquième sur ta liste chez le Canadien.
Oui.
Puis là, t'hésites entre Farabee puis je sais pas qui chez les Flyers.
Oui, mais je pense que tu sous-estimes un gars comme Farabee, l'apport de Farabee, tu sous-estimes.
Je trouve qu'il a plafonné un peu, moi, parce qu'au départ, il était très...
Oui, mais plafonné, ça dépend à quoi on s'attendait. Ouais. C'est pas un choix top 5, Farabee.
Oui, mais là, il est dans tes... Non, mais il est dans tes 5 top, là, d'une reconstruction.
Oui, mais si c'est le cinquième meilleur joueur d'une reconstruction en ce moment, à 24 ans, c'est pas mauvais. Puis comme je t'ai dit, moi, j'ai pas inclus Konechny là-dedans, j'ai pas inclus Sanheim, j'ai pas inclus...
Non, j'ai dit 25 ans et moins, t'es en reconstruction, là.
Oui, je le sais, mais c'est que là, t'essayes de me faire dire quelque chose que je veux pas dire.
Ben, dis-le pas.
Bon.
Ben, c'est sûr que je vais essayer de te faire dire des choses.
Je le sais, mais t'essayes ça, là, parce que t'es un...
Pac, trouves-tu ça proche, toi? T'as le droit de dire ce que... Il y a pas de mauvaise réponse.
Ben non.
Non, mais j'aime quand même... Autant que j'aime le fait que Martin Saint-Louis... concentre sur le développement, on dirait comme joueur par joueur, mais j'aime la rigueur que Tortorella semble amener à toute l'équipe. Ça, je trouve ça important dans comment tu bâtis ta formation.
Non, parfait.
Mais alors... par contre, je suis quand même d'accord avec toi, Mathias, que le Canadien semble un pas d'avance, mais dans l'épisode de la semaine passée, je suis encore un peu perdu dans le débat de c'est quoi la meilleure façon, est-ce que tu es mieux de mettre moins de recrues dans la Ligue nationale puis de les entourer avec plus de vétérans ou de mettre plus de recrues dans la Ligue nationale puis de les faire jouer le plus possible.
Ouais. Je pense que c'est du cas par cas aussi.
Ouais.
Parce que tu regardes ce qui est arrivé avec Slav, ça a été bénéfique.
Ouais.
Tu regardes ce qui est arrivé avec Kotkaniemi, ça a été un désastre.
Voilà. Exact.
Fait que, et ça dépend de l'individu.
Est-ce que Sanosé est en train de faire avec Will Smith?
Ouais.
C'est pas fort à date.
Ouais.
Bon.
Puis tu vois, Lane Hutson, c'est même pas une question de si ou...
Ouais.
Lui est arrivé puis il a dit « Hey, c'est chez nous ici. »
Voilà.
Exact.
Incroyable.
Cas par cas, comme tu dis.
Okay.
Alors, non, de bons commentaires, Pag. Ça revient un peu à ce que je dis. Une équipe, c'est un tout. C'est sûr qu'on si on analyse les joueurs individuellement sur papier, oui, il y a un avantage aux Canadiens.
Ouais.
Mais ça demeure quand même. C'est pas le baseball, là. Mm-hmm. C'est un tout, une équipe de hockey.
Bon.
Mais c'est quand même utile d'avoir Gorton qui l'a vécu un petit peu à New York, là, même si c'est pas,
pas longtemps, là, parce que t'es à New York, puis Fox est arrivé avec Panarin. Ouais, là, mais...
ouais. On va d'ailleurs parler des Rangers dans le podcast.
Ah oui, hein, plus tard. Oui. Mais là, on a beaucoup de choses à jaser aujourd'hui.
Ah oui, donc?
Et d'ailleurs, avant de mettre, de terminer notre éditorial, Simon, il s'est promené en fin de semaine.
Ben oui, je suis allé au Vermont voir le...
Attends, ouais, t'es allé voir Providence.
Providence contre l'Université du Vermont, ça, deux matchs.
On va dire qu'il est allé voir Providence parce que il serait allé voir d'autres choses, mais il n'y avait pas d'autres choses.
Bon, OK.
Non, mais Connelly ne jouait pas.
Connelly ne jouait pas. C'est ça qui arrive. Mais je n'ai pas regretté mon voyage parce que j'ai quand même vu deux espoirs intéressants pour Providence. Un qui appartient au Canadien, Logan Sawyer, un attaquant, et John Mustard qui appartient aux Blackhawks de Chicago que j'avais dans mon top 32.
OK.
Et qui a été repêché en troisième ronde quelques rangs avant Sawyer.
On va faire une précision quand même, Connelly était blessé.
Oui.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, ce qui est absent.
Il revient la semaine prochaine.
OK.
Alors, je l'ai manqué. Je l'ai manqué d'une semaine.
Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de Québécois.
Oui.
Et beaucoup d'amateurs de processus, d'ailleurs, qui nous écoutent en ce moment.
Écoute, je ne sais pas, je les ai tous croisés, mais j'en ai croisé qui sont venus me parler. Je salue d'ailleurs Alexandre et Guillaume.
Oui.
Guillaume, qui avait, avant même qu'il vienne me parler, je l'avais remarqué parce qu'il y avait un chandail du Canadien numéro 71.
Oui.
Et il avait cousu dans son dos un morceau de tissu et avait écrit au crayon feutre « Sawyer ». Bon,
puis
alors,
s'est-tu affiché à Sawyer?
Il m'a dit qu'il est allé voir Sawyer sur le bord de la bande.
Ouais.
Puis il s'est affiché à Sawyer, qui avait l'air un peu surpris.
Écoute, il devait être surpris, Sawyer, de voir quelqu'un au Vermont avec un chandail du Canadien puis son nom.
Ben moi, je me suis dit, au départ, j'ai dit, pourquoi il y a un chandail de Jake Evans? Mais ce n'était pas un chandail de Jake Evans. Il m'a dit que c'était un chandail de Mike Ribeiro.
Ah.
Alors, un fan de longue date de Mac Ribeiro que je salue. Alors, c'était... Et dans le terrain de stationnement, j'ai croisé un fan de processus avec sa conjointe et son petit gars qui avait un chandail numéro 22 de Cole Caulfield.
OK.
Alors, lui aussi avait fait le voyage pour Connelly.
Mais,
Je pense que personne n'avait été déçu. On a eu des bons matchs quand même en fin de semaine. Et puis, les amateurs d'espoir en ont eu quand même à se mettre sous la dent avec Sawyer et Mustard.
Tu m'as pas dit qu'il y avait un journaliste en herbe dans ceux que tu as croisés qui a fait une interview avec ton joueur préféré?
Bien, justement, le monsieur que j'ai croisé dans le stationnement, il est allé derrière le banc de Providence et Connelly était là. Il lui a parlé et c'est comme ça que j'ai su que Connelly revenait la semaine prochaine.
Bon.
Alors, je l'ai remercié pour le scoop.
Est-ce que tu penses qu'il lui a dit que son fan numéro un était dans le...
Connelly le sait parce que Tony Marinaro était allé le voir l'an dernier.
Okay.
Et il s'était fait prendre en photo avec lui au Combine et il lui avait peur de ça. Et Connelly était quand même assez surpris et flatté qu'un analyste de repêchage l'ait classé juste en arrière de Macklin Celebrini.
Écoute, je me demande si le monsieur a dû y en parler, c'est sûr.
Certainement,
aussi,
certainement.
Bon, mais Connelly à Montréal, s'il joue dans la Ligue nationale, évidemment, ça va être un...
Ah oui.
Je te t'inquiète.
Oui.
Bon, ben écoute, parfait. Le deuxième billet au deuxième bloc, parce qu'il y a de la grosse, grosse, grosse
mais
matière.
Mais ça serait bon de parler de Sawyer et Mustard un petit peu.
Ah, ben oui.
Ben oui.
Ben pourquoi pas.
Ben oui.
Sawyer, on dirait, puis tu vois, on dirait que ça parle, le fait que je l'ai oublié.
Oui, ben là, oui.
Est-ce que je commets une grave erreur de l'oublier?
Non, c'est pas une grave erreur. Cependant, c'est sûr qu'à l'époque où c'était très mince, l'époque de Trevor Timmons, pour ne pas le mentionner, Sawyer aurait été probablement plus dans sous le microscope.
Okay, celui qui a repêché Goulet et Caulfield à l'époque où c'était même.
Oui, c'est
ouais, vas-y, continue.
C'est ça. Deux gars en 15 ans, là. En tout cas. Logan Sawyer, je n'ai pas détesté. Cependant, il a pas joué énormément. Il était plus sur un troisième trio, mais curieusement, on l'a mis sur l'avantage numérique.
Ah.
Alors, le gars a quand même un bon patin, un bon maniement de rondelle, mais on voit qu'à la marche haute entre une Ligue junior A et la NCA. Alors, je pense qu'il y a de la place pour l'amélioration. Alors, c'est un gars quand même, pour un choix de troisième ronde, c'est pas un gars que tu peux nécessairement complètement tasser. Alors, on verra.
On perd pas le sommeil non plus, là.
On perd pas le sommeil, mais on ne le discarte pas. Du côté de John Mustard, qui était un de mes préférés, un de mes coups de cœur du repêchage 2024, je n'ai pas été déçu. Le gars patine comme un jet. Le gars veut toujours la rondelle. Il fait des très beaux jeux. La seule chose qui me dérange un petit peu dans son cas, c'est qu'il a peut-être essayé en vendredi-samedi au total de déjouer des joueurs peut-être 12 fois.
Bon, c'est
Et il n'y a pas une fois qui était capable de déjouer le joueur. L'attaquant ou le défenseur qui lui faisait face a joué l'homme et non la rondelle et l'a arrêté. Alors peut-être que Mustard, il va falloir qu'il utilise sa vitesse plus d'une façon différente que d'essayer de déjouer tout le monde.
C'est ton Athanasio de 2024, finalement.
Plus responsable défensivement, je te dirais.
Bon. Si Pag était dans ses jeux de mots aujourd'hui, se demanderait si, de te rappeler, est-ce qu'il a été repêché par Nashville, Mustard?
Blackhawks, Mathias. Début de troisième ronde.
D'ailleurs, j'ai regardé Sam Rinzel, mais seulement les statistiques. Oui. Il est en feu dans NCAA, parlant des Blackhawks.
Oui. Rinzel, tu sais, qui était un de mes coups de cœur du repêchage il y a quelques années. C'est sûr que là, ça commence à être normal. Il commence à avoir plus d'expérience. Je pense que c'est un gars, tu sais, de Quaspier 4, qui était assez longiligne, qui avait un superbe coup de patin, mais qui devait raffiner l'ensemble de son jeu offensif. Et là, je pense que tranquillement possible, pas vite, c'est en train de se faire. Et à Chicago, comme dans le cas de Mustard, il va avoir de la place parce que l'alignement des Blackhawks en ce moment, à l'attaque, là, à part Connor Bedard, il n'y a pas grand jeune. Là.
Okay.
Pas grand jeune intéressant. Alors, je pense, et c'est la même chose à la défense, surtout que Koshinski a eu un peu a reculé un peu dans la hiérarchie en ce moment. Alors, Rinzel, normalement, pourrait signer son contrat à la fin de l'année, puis on pourrait le voir à Chicago éventuellement.
Bon. Écoute, juste avant de conclure, là, pour ceux qui ne l'auraient pas catché encore, Mustard, jaune, Nashville.
Ben oui, bon, ben oui.
C'est juste pour vous rendre service. Simon, deuxième bloc, je pense que ça fait longtemps, ça doit faire des années que tu veux faire ça. Ça fait des années que tu m'en parles.
Ah, sur le blog, je t'en parlais.
Imagine, il y a 15-20 ans. La fameuse Ligue américaine, la Ligue de développement des attaquants de premier plan.
Oui.
Puis toi, tu as toujours dit que pour les défenseurs, dans une certaine catégorie, ça peut servir. Évidemment, Hudson est arrivé directement et n'en a pas eu besoin.
Voilà.
Quinn Hughes et Makar non plus n'en ont pas eu besoin pour l'élite. Et les attaquants, c'est encore plus flagrant. Fait que pour toi, si je synthétise ta pensée, c'est bon, la Ligue américaine, pour les gardiens. Dans certains cas, les défenseurs.
Oui.
Très, très peu, les attaquants.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour étoffer ta théorie?
Oui, bien, je suis allé... On va vous lancer beaucoup de chiffres.
Oui.
Mais ça va être quand même assez concis et clair. J'ai pris les 100 premiers marqueurs de la LNH l'an dernier.
Oui.
Tout simplement.
Chez les attaquants ou en tout et partout?
En tout et partout.
OK.
Je suis arrivé à 89 attaquants et 11 défenseurs.
Oui.
Et là, j'ai regardé un peu leur parcours. Qui a joué dans la Ligue américaine et combien de temps?
Oui.
Il y a 5 défenseurs sur 11 qui ont joué dans la Ligue américaine. Et là-dedans, celui qui a joué le plus grand nombre de matchs, c'est Roman Josi, 74, ce qui est l'équivalent d'une saison.
OK.
Il y a, par exemple, un gars comme Morgan Riley qui en a joué 14, Mike Madison, 59, Josh Morrissey, 65, Evan Bouchard, 54. Et les 6 autres...
Okay.
N'ont pas joué dans la Ligue américaine, parmi les 100 meilleurs.
C'est drôle que tu parles de Makar, Hughes. Tu parles de Morrissey, c'est juste une parenthèse, parce que Pascal Vincent, sur nos ondes, à Martin Lemay, avait dit la semaine dernière que Morrissey, sa première année ou première moitié de saison, il n'était pas sûr s'il allait même être correct pour la Ligue américaine.
Oui, je me rappelle de ça. Je me rappelle, c'était un peu ce que je me disais moi aussi.
Okay.
Dans les attaquants, il y en a 48 sur 89 qui ont joué dans la Ligue américaine. Mais là, voici un petit peu... On va faire une ventilation tout seul.
Moi, ce que je veux savoir, c'est le nombre de disons, en bas d'une saison, là, il y en a combien?
Ben c'est là. Voici. Bon, dans les 48, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui ont joué à 18 et 19 ans. Et pour moi, ça compte pas. Pourquoi? Parce que normalement, un joueur junior n'a pas le droit de jouer à cet âge-là.
Okay.
Mais il y a des joueurs européens qui ont joué. David Pasternak, William Nylander, Philip Forsberg, Leon Draisaitl. Et là, il y a des gars comme Braden Point, Seth Jarvis, Ryan Nugent-Hopkins et Bo Horvat qui ont joué. Ryan Nugent-Hopkins, sais-tu pourquoi il a joué dans la Ligue américaine?
Ben, lockout.
Le lockout. Alors vois-tu, là, on parle de gars... tu sais, il y en a d'autres, là. Je te donne un exemple. Pavel Buknevich, 4 matchs. Cole Caulfield, 8 matchs. Pavel Zaka,
7
matchs.
Ça.
Non, mais il rentre dans le 48 sur 89. Ça fait que c'est pour te dire comment il y en a peu. Je vais aller vers ceux qui ont le plus joué. OK?
Regarde, il y en a combien dans les 100, tu dois l'avoir dans tes notes, qui ont joué plus qu'une saison dans la Ligue américaine?
Ben, moi, j'ai pris.
Sur 100.
Moi, j'ai pris ceux qui ont joué plus que 100 matchs.
OK.
J'en ai 9.
9. Donc, et il y a 9%.
Oui. Et là, Mathias, il y en a 3 là-dedans qui ont joué moins de matchs que 100 à l'âge de 20 ans et plus. Je te donne un exemple. Adrian Kempe, des Kings, est arrivé à 18 et 19 ans. Il a joué 58 matchs. Ensuite, il en a joué 46 à 20 ans. Il a été rappelé. Donc, il y a seulement 6 gars sur 100 qui ont joué plus de 100 matchs à partir de l'âge de 20 ans.
Ouais, mais...
Ah oui.
Moi, ce qui m'impressionne plus, oui, c'est que 9% des 100 premiers compteurs de la Ligue nationale ont passé plus qu'une saison dans la Ligue américaine.
Oui. Ils sont JT Miller, Nazem Kadri, Adrian Kempe, Gustav Nyquist, Kevin Fiala, Carter Verhaeghe, Jonathan Marchessault, Brad Marchand et Drake Batterson. Le plus grand nombre de matchs joués, Jonathan Marchessault, 306.
Puis dans ces 9%-là, ils sont-ils dans le premier tiers des meilleurs marqueurs?
Certains oui, certains non.
Ouais.
Mais en général, non.
Bon. Puis là, tu me parles de gars qui sont développés sur le tard quand même en Verhaeghe puis Marchessault, là, qui ont mis du temps à...
Oui. Mais... Juste pour dire une autre statistique, dans les 100 premiers marqueurs de la Ligue,
ouais,
il y a 70 choix de première ronde.
C'est fou, hein?
Oui. Ouais. Et parmi ces 70 choix de première ronde-là, Nazem Kadri est le seul qui a joué plus de 100 matchs à partir de l'âge de 20 ans.
OK.
1 sur 70.
Tu sais, puis souvent, ouais, on a ce débat-là. Puis là, les gens vont dire, oui, mais Kucherov, oui, mais c'est plus rare. Quand tu repêches, puis oui, tu as des flops au premier tour, mais c'est que tes chances de réussite sont vraiment plus élevées.
Bon. Chez le Canadien, 11 joueurs ont joué dans la AHL. OK? Parmi les joueurs suivants.
Je peux-tu te couper?
Oui.
Moi, je veux savoir plus qu'un an. Parce que moi, que Caulfield, okay, bon, ben, 8 matchs, je m'en fous.
Joel Armia, 134 matchs. Justin Barron, 107.
C'est les seuls qui, oui, ont joué plus que 100 matchs en Ligue américaine.
Bon, puis là, il y a Mayhew qui est peut-être en voie 2.
Oui,
bon,
mais on ne sait même pas s'il va être
autres,
en voie
du Canada. Caulfield, Doc, Madison, Newhook, Gouli, ça n'a presque pas joué. Suzuki, Slafflini, 0 match. Voilà.
Mais c'est-tu une conséquence de notre statut de reconstruction? Parce que, mettons, Pacioretty, il y en a joué des saisons dans la Ligue américaine.
OK, c'est pas fou ce que tu dis. Ouais. Sauf que, reconstruction ou pas, Suzuki puis Lainé, même s'il n'était pas pour le Canadien dans le temps, Suzuki et Lainé n'avaient pas d'affaires dans la Ligue américaine.
Ouais.
Mm-hmm. Cole Caulfield n'avait pas d'affaires dans la Ligue américaine. Kaden Gooley n'avait pas d'affaires dans la Ligue américaine.
Reconstruction ou pas, Hutchinson arrive, là.
Je joue pareil.
Tu regardes McCall, ben oui, au Colorado, là, il n'était pas en reconstruction, il est rentré direct.
Puis dans le cas de Pacioretty, à l'époque, il était à Hamilton parce qu'il n'était pas très bon. Puis, ouais, tu sais, on parlait tout à l'heure.
Ben, ou c'est Claude Julien qui était très sévère. Là, je dis Claude Julien, mais
il me semble que c'était... Mais Pacioretty, il n'était pas prêt au début. Je, ouais, me souviens, ouais, il y avait eu un but en 34 matchs, je ne sais pas trop, il patinait, ouais, il était fort. Mais tu voyais qu'il faisait juste patiner. Il avait besoin de la Ligue américaine. Alors, reconstruction ou pas,
okay,
Pacioretty aurait dû y aller. Mais c'était une bonne question. Dans le cas actuellement, bon, est-ce que dans un contexte de non-reconstruction, Slaf aurait joué à 18 ans? Ça peut-être,
ouais, il l'aurait peut-être envoyé dans la Ligue américaine, là, comme ça, ces exceptions-là. Okay.
Ça, c'est possible. Que Slaf aurait pu... ça, c'en est un, ce qui aurait pu jouer, mm-hmm, dans la Ligue américaine si le Canadien n'avait pas été en reconstruction.
OK. Puis là, j'imagine que la semaine prochaine, tu vas nous faire le top 100 des joueurs avec le nombre de minutes jouées en désavantage numérique pour nous dire combien ont joué dans la Ligue américaine.
Non.
Là, tu vas en avoir un paquet.
Non.
Non?
Non, mais dans
parce que les spécialistes défensifs...
Les spécialistes, c'est de là que ça part.
Ouais.
Parce que, comme j'ai déjà dit, c'est pas dans le junior que tu peux identifier un spécialiste défensif, ouais, vraiment. Parce que les joueurs repêchés, d'habitude, sont tous des vedettes offensives.
Ouais.
Dans la Ligue américaine, leur identité commence à se forger. Et c'est là que tu commences à voir à quel genre de joueur t'as affaire. Bon, la semaine prochaine, pour mettre l'eau à la bouche, ça fait plusieurs semaines qu'on m'en parle, il y a le fameux règlement qui fait en sorte que les joueurs de la Ligue junior vont avoir le droit de jouer dans l'NCAA, possiblement. Ouais. Ça, on va faire une grosse étude des pour et des contre de ce dossier-là.
Parfait. Mais, tu sais, parlant des joueurs de soutien, Jake Evans, Ligue américaine.
Oui.
Pezzetta, Ligue américaine.
Oui.
Josh Anderson, Ligue américaine.
Voilà.
Tu sais, même si certains ont espéré, à un moment donné, ça a été Ligue américaine. Fait que pour les joueurs de soutien aussi, c'est très bien, là.
Mm-hmm.
Tu sais, Owen Beck, probablement que
Mais la Ligue américaine aime bien se vanter à chaque début de saison. Ils passent à travers les alignements. Ils, ouais, disent 91% des joueurs de la Ligue nationale, ouais, ont joué dans notre ligue. Ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Oui.
Caulfield de jouer dans leur ligue.
Oui,
ça a été six matchs,
et
c'était
trop fort. Et sans compter tous les gars de quatrième trio, les gardiens de but. Les gardiens de but ont joué. Vasilevski a passé une couple d'années là.
Les défenseurs. David Savard a sûrement passé du temps dans la Ligue américaine.
Oui, mais la réalité, c'est que on l'a vu tout à l'heure.
Avant,
À part Jonathan Marchessault et Carter Verhaeghe, il n'y a pas grand monde qui passe plus qu'une saison et demie.
Fait que, c'est quoi la morale de l'histoire?
Ben, la morale de l'histoire, c'est qu'il va falloir que les fans des équipes arrêtent de s'emballer avec les joueurs qui... Et surtout les attaquants.
Ouais.
Les attaquants qui passent des années et des années dans la Ligue américaine et qui, à un moment donné, à l'âge de 23 ans, ont 80 points.
Ou qui passent même deux ans.
Je sais qu'il y a des exceptions. On va me sortir Jonathan Marchessault. Je sais tout ça. Mais règle générale, si vous voyez qu'un attaquant a fait deux ans dans la Ligue américaine, ses chances de devenir un joueur d'impact, un top 100 marqueur dans la Ligue nationale, sont extrêmement minces.
D'ailleurs, je pense qu'un de tes préférés, Connor Geeky, n'est pas passé par la Ligue américaine.
Ben voilà, et je pensais qu'il irait.
Ouais.
Et malgré tout, on le garde, et là, il est rendu sur le deuxième trio, et il prend de plus en plus de galons. Les points ne viennent pas vite. Deux points à ses deux derniers matchs, c'était ses premiers points dans la LNH, huit matchs, deux points. Mais les points vont suivre parce que Geeky, il est là, et vois-tu, une crainte que tout le monde avait, c'était son coup de patin.
Ouais.
Et curieusement, dans la Ligue nationale, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je ne sais pas si c'est le fait, comme je te disais, les grandes enjambées d'un gars de 6 pieds 4, mais il n'est pas du tout, mais pas du tout en retard sur le jeu.
Et la vitesse peut-être à laquelle il joue aussi doit aider.
Oui.
Tu sais, c'est pas juste le...
Oui. Alors, vraiment très heureux du début de carrière de Connor Geeky.
Hey, j'ai une petite balle courbe, moi, par rapport à ça.
Courbe?
Oui. Y a-tu des jeunes attaquants qui seraient plutôt issus des ligues européennes, qui auraient joué professionnel en Europe, qui auraient donc échappé à la Ligue américaine? De par le fait qu'ils ont déjà joué dans une ligue professionnelle?
Bien, je te dirais, en général, si un joueur... C'est bon ce que tu demandes.
Oui.
Je te dirais qu'en général, si un joueur... Tu sais, un joueur, il est prêt ou il ne l'est pas. Alors, c'est sûr que des gars qui vont arriver... Je te donne un exemple. Il y a Nikishin de Caroline qui s'en vient. Là, c'est imminent. Le meilleur défenseur de la KHL. Si le gars arrive à 19 ans ou même 20, je pense qu'il joue dans la Ligue américaine. Lui, il va y échapper parce que dans la KHL, il est dominant. Mais ça demeure quand même des exceptions parce que...
Nylander,
lui, c'est qu'il est arrivé à 18 ans dans la Ligue américaine. C'est pour ça que je ne les compte pas, ces gars-là. C'est qu'eux, au lieu de faire leur classe dans le junior, les règlements leur ont permis de s'en aller dans la Ligue américaine.
Ouais.
Moi, c'est pour ça que je cible les joueurs de 20 ans et plus. Tu sais, Elias Pettersson, qui joue en Suède, il est arrivé direct dans la Ligue nationale. S'il est arrivé un an plus tôt, est-ce qu'on l'a renvoyé dans la Ligue américaine?
Probablement.
Peut-être.
Comme Kopitar est arrivé à 19 aussi.
Et voilà. Okay. Alors, mais je pense que pour les super joueurs, les Rasmus Dahlin et compagnie, je pense que ce n'est pas un facteur. Mais un autre gars comme Axel Sandin-Pellikka, un bon espoir des Red Wings, qui est un des meilleurs joueurs en Suède, un des défenseurs en Suède, s'il était en Amérique en ce moment, il serait dans la Ligue américaine.
Ouais.
Mmh. Alors, pour répondre à ta question, oui. Mais ça dépend là, du calibre de joueur.
OK. Bon. Mais écoute, ça confirme. Puis ça va peut-être éclairer davantage aussi. Puis moi, j'avoue que pendant... à une certaine époque, j'avais tendance probablement à surestimer la Ligue américaine.
Qui est quand même, selon moi, la deuxième meilleure ligue au monde.
Imagine, en plus.
OK. Ouais. J'achète pas là, le principe que la KHL est une meilleure ligue.
Fait que c'est pour ça, Pag, souvent... Tu sais qu'il y a des gens qui ont le réflexe de dire « Hey, Laval va être trop fort. Il y a au moins 6-7 gars. » On a beau s'emballer, il y en a tout le temps 2 ou 3 maximum du club école de la Ligue américaine qui va percer, puis peut-être encore moins qui a un impact.
Voilà. Moi, puis ça marche pour toutes les équipes. Moi, en ce moment, je fais toujours une petite tournée de Ligue américaine. Je regarde les alignements début de saison, je vais avoir des matchs d'à peu près toutes les équipes. Puis, mon Dieu, je regarde ça, puis la liste des joueurs à surveiller est mince. C'est comme tu dis, c'est 2-3 joueurs par
équipe. À Laval, là, regarde, là, t'as beau tous les aimer, ça va être 2 ou 3 et encore.
Oui. Tu sais, on regarde l'alignement de Laval là, en ce mois d'octobre 2024, on s'en reparle dans 3 ans. Combien de gars de Laval en ce moment vont être des réguliers dans la Ligue nationale en 2027?
Et 3, c'est si ça va super bien, là.
Oui. Ouais, mais c'est sûr que si, à l'âge de 20 ans, Hutson et Slavkovski étaient là, Ça change tout.
Ouais.
Mais ils sont pas là.
Parce qu'ils sont bons.
Ben oui. Ben oui.
Et on le dit en même temps. Ouais. Good.
Trust the process.
Trust the process.
Bon, ben on est rendu dans notre troisième bloc, là où on parle de l'avenir des équipes.
Oui.
Puis tu commences par les meilleurs l'an dernier, les premiers de classe,
oui,
pour arriver à la fin puis avoir plus de choses à raconter sur l'évolution de ces équipes en reconstruction.
Oui, les pitoyables Sharks de San Jose.
Ils devraient être derniers, hein?
Ah, on va. Mes calculs me disent qu'on va en parler en avril ou en mai.
Donc, il y a eu les Panthers de la Floride, les Oilers d'Edmonton, les Stars de Dallas et le quatrième membre du carré d'as des séries qui, mon Dieu, qui a plongé Montréal dans une déprime mardi dernier.
Oh oui.
Les Rangers de New York.
Oui, toute une correction que les Rangers ont servi aux Canadiens.
Sont-ils déjà à la croisée des chemins?
Ah, c'est bon parce que mon énoncé sur les Rangers, c'était que c'est une équipe qui était basée pour le présent et pour l'avenir.
Mais je parle, évidemment, tu auras deviné que je dis ça à cause de la situation de leur gardien.
Oui, Shesterkin qui en pourrait en être à sa dernière saison ou commander un contrat tellement élevé que ça pourrait nuire aux Rangers dans les signatures éventuelles de contrat. La raison pour laquelle les Rangers, c'est une équipe bâtie pour le présent et pour l'avenir,
ouais,
ben, pour le présent, c'est que ils ont 5 joueurs clés dans la trentaine. Ouais.
Début trentaine quand même. Là.
Ben, Panarin a quand même, il va avoir 33 ans cette semaine.
Okay.
Et à la fin de son contrat en 2027, il va signer sur 36 ans. Alors, il lui reste 3 saisons avec les Rangers, okay, en incluant celle-ci. Zibanejad, sous contrat jusqu'en 2030, il a 31 ans, tout de même. Il y a Chris Kreider, contrat jusqu'en 2027.
À peu près, là, ouais.
Il est du repêchage 2009, donc né en 1991, on parle de 33. Vincent Trocheck, 2029, et Jacob Trouba, 2026.
Okay. Bon. Oui, c'est dans, quand même dans la force, encore oui, dans la force de l'art.
Oui,
ouais,
mais c'est ça, je te dis. Mais ouais, les Rangers, pour moi, c'est les 3 prochaines années.
Okay.
Jusqu'à l'expiration des contrats de Panarin et Kreider.
OK, bon, oui.
Là, évidemment, tu viens de le mentionner, Shesterkin, l'éléphant dans la pièce qui demande 12 millions par année. Oui, le plafond salarial augmente, mais les Rangers vont quand même avoir des joueurs à payer et veulent certainement se garder une marge de manœuvre pour aller signer un agent libre par année, comme ils aiment, ouais, bien le faire. Et là, le contrat l'année prochaine de Lafrenière qui va commencer sa prolongation, ouais, de contrat, on va en parler tout à l'heure. Keandre Miller, qui est agent libre avec compensation à la fin de l'année. Il gagne 3,4 millions en ce moment. Il va certainement vouloir doubler son salaire. C'est quand même un joueur.
Tu m'as dit sans compensation?
Avec compensation.
Okay.
Mais qui va certainement vouloir doubler son salaire. Alors, avec ça, les Rangers ont quand même une fenêtre de 3 ans pour gagner la Coupe, mais ne seront pas nécessairement finis après ces 3 ans-là.
Ouais.
Pourquoi? On a encore Adam Fox sous contrat jusqu'en 2029. Il n'est pas vieux. On vient de mentionner Miller, Braden Schneider. Alors, ça fait un très beau trio à la défense.
Fox doit avoir 26-27, oui, environ. Ouais.
Et ça fait un très beau trio à la défense. Bon, à l'attaque, chez les jeunes, c'est mené évidemment par Alexis Lafrenière, qui vient, ouais, d'avoir 23 ans. Philippe Étil, 25. Là, on a Will Cooley, qui commence bien, mais qui, selon, ouais, moi, est plus un joueur complémentaire. Et le très décevant, Kako.
Kako, ça fait mal.
Alors,
un deuxième au total.
Kako, c'est
là,
un flop. Là, on est rendu quand même à Kako, là, ouais, sa 7e saison. 6e saison, là, il faut arrêter de dire qu'il est jeune.
Ouais.
OK? Alors, ce qui vaut pour Kotkaniemi, vaut pour Kako.
Ouais.
Bon, on va arrêter de le défendre puis d'espérer. Chez les jeunes qui s'en viennent, il y a un espoir absolument exceptionnel. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi ce gars-là est sorti 23e. C'est Gabriel Perreault, le fils de Yannick, qui fait flèche de tout bois à Boston College. Il a 19 ans. Il devrait signer son contrat à la fin de l'année et jouer avec les Rangers. C'en est un autre, d'après moi, qui ne passera pas par la Ligue américaine. Et dans les joueurs de soutien, les joueurs qui jouent dans la Ligue américaine, Brennan Ottman, valeureux joueur de 3e, 4e trio. Okay. Et à la défense, ben, le choix gaspillé des Rangers, AJ Emery, 18 ans, un joueur, un défenseur strictement défensif. Bon, tu vas me dire que les Rangers en ont besoin parce qu'ils ont déjà des gars pour transporter la rondelle.
Premier tour, non.
Premier tour, il a été repêché à la fin du premier tour. Alors ça, pour moi, c'était trop tôt.
Fait que donc, la stratégie des Rangers serait un peu d'imiter les Vegas.
Oui.
Ben, tout le monde veut imiter Vegas. C'est d'aller chercher des gars éventuellement d'ici une couple d'années entre 26 et 28 ans pour soutenir les Lafrenière et les Keandre Miller et les Fox oui. quand tes plus vieux vont être partis.
Ben, c'est bon ce que tu dis, parce que l'année qu'ils vont perdre, on ne sait pas, Panarin et Kreider en 2027,
ouais.
ça va libérer là, quoi, presque 20 millions.
Oui.
Est-ce qu'on va re-signer Panarin à bas prix, ou est-ce qu'on va lui donner un contrat de fou, ou est-ce qu'on va simplement le laisser aller? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il va avoir 20 millions à la disposition. Tout d'un coup, qu'en 2027, il n'y en a pas beaucoup de gros agents libres disponibles. On le sait, il y a eu Panarin, il y a eu Tavares, ouais. c'est rare. Mais est-ce qu'on va décider d'attirer une couple de joueurs avec ça? Ou est-ce qu'on peut aller faire un échange pour aller chercher un ouais. joueur récalcitrant de signer avec une autre ouais. équipe?
Mais t'es à New York, hein?
Oui.
Fait que ça, t'as déjà ce gros atout-là.
C'est ça. Alors, ça roule à New York, ça pourrait rouler. Donc, d'après moi, les Rangers, très près de la Coupe Stanley, si c'est pas cette année, c'est broche. Et sinon, dans un horizon de 6-7 ans, toujours une équipe dangereuse qui va donner du fil à retordre aux Canadiens, mais... Ouais. probablement qu'à un moment donné, l'écart va se rétrécir et il n'y aura pas des dégelés comme on a eu mardi passé.
Fallait-tu que ce soit tout croche à l'époque, les Rangers, avec la masse salariale puis les budgets qu'ils avaient? Ça a été tout croche pendant une période. Ils signaient les agents libres, là, envoyaient donc les Bobby Olick et Scott Gomez de ce monde. Ça ne fonctionnait pas. Tu sais que si tu es à New York, tu as des bons gestionnaires, tu as des...
Ben, coup de chapeau à Jeff Gorton, qui a initié cette reconstruction-là. Ouais. Et je me souviens qu'il avait échangé à ce moment-là, après la fameuse lettre envoyée aux partisans,
ouais.
il avait échangé McDonough, il avait échangé, bon, J.T. Miller, ça c'est moins bon, mais J.T. Miller à ce moment-là n'était pas
non.
ce qu'il est devenu. Il avait échangé
Nash,
Mazzucarello, ouais. mais il avait gardé Chris Kreider. Ouais. Et je me souviens qu'à ce moment-là, moi je m'étais dit, pourquoi? Tu fais le ménage de tous tes vétérans, ouais. tu vas te chercher des choix de première ronde, des espoirs, et pourquoi tu gardes Chris Kreider?
Ben, probablement Chris Kreider, pour le remercier d'avoir scrappé la carrière d'un rival du Canadien.
Ouais, mais ça a vraiment été un bon geste.
Ouais.
Bon, l'échange de Zibanejad, évidemment, a été un vol
ouais.
contre Derek Brassard, qui était un très bon joueur à son apogée, mais qui ouais. était vraiment sur la pente descendante, alors que Zibanejad... Et Panarin, Fox, c'est difficile de donner du crédit à un DG. Les deux gars voulaient absolument jouer à New York.
Ouais. Mais il y a Ryan Strome qui a bouché un trou important au centre du deuxième trio aussi. Je
oui,
pense que c'était pour Spooner.
Oui.
Ça a été tout un échange.
Je pense que la tâche au dossier de Gorton, c'est d'avoir finalement, il y a eu 4 choix top 9.
Ouais.
Vitali Kravtsov au 9e rang, Liash Anderson au 7e rang et Kaapo Kakko au 2e rang. On peut l'excuser pour Kakko, c'était un choix quand ouais. même unanime là, chez les observateurs de hockey.
Ouais.
Mais Anderson et Kravtsov, ça a fait mal.
Et cet homme a toujours, ce recruteur a toujours un emploi. Jusqu'à ouais. maintenant, ça va chez le Canadien.
Oui, ça va.
Nick Bobrov, ouais. mais il ne faut pas qu'il en aille comme ça.
Non, mais à date 2022, 2023, 2024, c'est sûr qu'il n'y a aucun repêchage ouais. qui est parfait. C'est sûr que je ne suis pas d'accord avec tous les choix.
Ouais.
Mais on peut dire qu'à date, le travail semble dans l'impression
qu'il va toujours, tu vas toujours en échapper.
Toujours.
Tu vas toujours en échapper.
C'est quoi qu'on disait? Parce que là, je reviens toujours à Philippe Messer, mais c'est quoi qu'on disait de lui quand on l'a repêché? C'est-tu vraiment juste l'ami de Slav?
Non.
Ben non, ça, c'est sûr.
Ce qu'on disait de lui, c'est que c'était un gars qui était un peu frêle, qui avait besoin de prendre du muscle, mais qui était extrêmement habile.
Oui, oui.
Mais moi, je n'ai jamais vu le gars extrêmement habile ouais. que plusieurs voyaient.
Tu sais, j'étais allé au Rocket vendredi, puis ça m'a frappé à quel point, mettons... C'est peut-être une fleur que je lance en disant ça, mais lui et Joshua Roy, ils ont à peu près le même ascendant sur une partie. C'est juste que...
Dans la Ligue américaine.
Exact, mais okay. Joshua Roy, il est plus
finisher. Ben, c'est la capacité aussi, à un moment donné, tu sais, puis Joshua Roy, il est moins en périphérie aussi. Quand tu arrives dans la Ligue ouais. nationale, ça
fait toute une différence.
Mais de là à le choisir au 28e
ouais,
rang.
Regarde Elias Anderson au 6e ou 7e rang.
Ouais.
Des fois, tu te demandes après coup pourquoi.
Mm-hmm. Ouais. Mais moi, sur le moment même, ouais. Méchard, j'ai trouvé que c'était. Moi, je ne l'avais pas en première ronde. Ouais. Mais c'est sûr que là, après ça, il faut que tu regardes. Mm. C'est les gars qui ont été choisis 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, etc., dans cette zone-là, qui t'a laissé passer? Tu sais, c'est toujours ça qui est important.
Ouais,
parce que
pas, ouais.
s'ils floppent tous, ben là, ouais. on se dit, écoute, Méchard ou un autre, c'est pas grave.
T'as laissé passer les Natsun.
Oui, t'as laissé passer les
Natsun.
Il y a une maudite gang qui l'ont laissé passer.
Oui, il y a une maudite gang qui l'ont laissé passer, mais t'as laissé passer les Natsun. T'as laissé passer Tristan Luneau.
Ouais.
OK, un Québécois qui avait un potentiel de défenseur top 4 qu'on a laissé passer
Mathieu
pour prendre Philippe Méchard. Oui, Poitras, mais qui a été un petit peu plus une surprise.
Ouais.
Mais Luneau, là, c'était une valeur sûre.
C'est sûr. Lafrenière, là.
Oui.
Tu sais, on veut juste rappeler
ouais.
à certaines personnes, pas tous évidemment, parce qu'on a, j'aime répéter qu'on a des auditeurs allumés. Tu sais, Lafrenière, là, c'est quoi, là, sa quatrième, cinquième saison?
Cinquième
saison.
Ouais.
Puis les trois, quatre premières années, là, c'était un choix raté, là.
Ouais.
Il faut tellement attendre avant de trancher.
Oui.
Mais parce que tu regardes cette QV-là, et écoute, il y en a qui nomment une douzaine de joueurs
ouais.
avant lui.
Oui. Ouais. Puis là, c'est là. Jamie Drysdale. Byfield s'en vient bien, mais c'est pas...
Mais tu sais, Drysdale, ouais. Il y a trois ans, on disait Drysdale bien avant oui. Lafrenière.
Mais moi, Mathias, là, je trouve que... Je vais mettre un petit bémol dans ce que tu dis. Oui, la patience est de mise,
ouais.
mais à un moment donné, les années perdues avant que le joueur devienne bon comptent aussi. Tu sais, si tu dis, admettons que Lafrenière, là, il y a 10 grosses saisons
ouais.
dans l'NH.
Ouais.
C'est vraiment quand les gars arrivent en fin de carrière que tu peux voir vraiment... qui a été le meilleur. Parce qu'à date, là, les quatre premières saisons, soyons honnêtes, là, tout ça a été meilleur que Lafrenière.
Oui, mais tout dis-le à New York, mais Lafrenière à Ottawa, c'est peut-être le scénario inverse, parce qu'à New York, là, c'était bouché pour les jeunes.
Ah,
bouché.
Ça.
Puis à Ottawa, on ouvre les portes aux jeunes.
Ça, c'est sûr que ça rentre toujours en ligne de compte. Mais mon point, c'est que tu peux pas arriver puis dire... Faut être patient, puis le gars est clos à 23 ans, puis complètement ignorer le fait que les quatre premières ou les trois premières saisons et demie ont été moins bonnes.
Ce que je veux dire, c'est éviter de tirer des oui. conclusions hâtives.
Bon, bien, c'est là où je suis d'accord. Je mettais juste un bémol.
OK, parfait.
Alors que moi, c'est pour ça que des fois...
Comme Huberdeau, ça a été long.
Oui.
Puis même McKinnon, ça a été en dents de scie.
Ça a été en dents de scie avant qu'il devienne oui. la grande étoile. Ça a pris 4 ans.
Oui.
C'est pas
simple. 4 ans.
Ouais. Parce que Duchesne a été changé en 2017.
C'est quand il est parti.
À l'automne 2017. Ouais. Ouais. Mais moi, ce que je te dis, Mathias, c'est que, tu sais, on me demande souvent, des fois, on me demande de faire des re-repêchages
ouais.
basés sur 3-4 matchs dans la Ligue nationale.
Ouais.
Tu sais, me dit, refais le repêchage 2022. Le lendemain, mettons qu'un gars de la QV 2022 a eu 2 buts. Wow, là. Wow.
Mais là, pourquoi tu me parles de 2022?
Ben, je pourrais dire parce que ça fait juste 2 ans.
Est-ce que tu veux que je te demande la question que je t'ai posée après-midi au téléphone?
Tu peux même la poser, je m'en fous.
Puis j'en ai parlé à Martin ouais. Lemay tantôt aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, 2022, ça a quand même été la grosse controverse. Slafkovski, O'Wright, puis il y en a qui étaient prêts à déchirer leur chemise que le Canadien repêche Slafkovski avant Wright.
Ouais.
Hudson ou Wright?
Bon. Alors, pour faire un préambule, Shane Wright. Je n'étais pas dithyrambique comme certains ouais. à son sujet. Mais depuis qu'il n'a pas été repêché par le Canadien, je ne suis pas là pour le démolir non plus.
Non.
OK? Bon.
Puis là, tu sais, c'est ouais. pas un truc après coup.
Non.
Parce qu'on sait qu'Hudson n'aurait jamais été repêché quatrième.
Là, mais c'est pour ça que je te dis, Mathias, là, on est au mois d'octobre. Les deux ont joué quoi? 8-9 matchs là, dans leur saison.
Wright ouais, cette saison,
ouais. Oui. Wright a joué un petit peu dans l'NH l'an passé. Mais là, on peut dire qu'ils ont le même âge. Sont dans l'NH. J'ai regardé Shane Wright depuis le début de l'année. Shane Wright, en ce moment, joue sur un troisième trio. Beaucoup avec Burakovsky, entre ouais. autres. Ce n'est pas, et je n'ai jamais cru que ça pourrait devenir une locomotive.
Bien, c'est sûr, il a joué dans la Ligue américaine.
Mais il est quand même
non,
dans
mais
la...
un mais... an dans la Ligue américaine.
Oui, mais à 19
ouais.
ans.
Ouais.
À 20 ans, il est dans la LNH.
Ouais, mais c'est un joueur bon, exceptionnel.
C'est un joueur de la LNH.
Hein?
Mais c'est un joueur.
Des joueurs exceptionnels, il faut que ça joue dans la Ligue américaine à 19 ans.
Et voilà. Bon, mais il y avait d'autres raisons dans le règlement, là. Mais l'affaire, c'est que Wright, c'est pas une locomotive. C'est pas un Patrice Bergeron non plus. C'est un gars qui joue bien sa position. Il est en train de s'acclimater au hockey de la NNH, ouais. là, pour employer un cliché. Je n'ai jamais vu en lui un dynamo offensif. Et ce que je vois à date, OK? Puis là, c'est pas une prédiction ouais. que je fais, c'est une constatation. Il ne l'a pas été. Est-ce que ça va changer d'ici 2-3 ans? Ma prédiction à l'époque, c'était non. Et puis moi, je suis pas le genre à faire la girouette ouais. puis changer à tous les mois de prédiction. Alors à date, si tu me demandes, en octobre 2024, qui est en avance sur l'autre,
ouais.
d'après ce qu'on a vu dans la LNH, ouais. évidemment, même si les positions sont différentes, c'est les notes.
Ben oui, tu n'as même pas besoin de
voilà.
répondre.
Mais tu sais, Wright, il a quand même été sur le premier trio, puis il n'a même pas 9 matchs de jouer. À quel point on fait la locomotive avec lui, avec le jeune? Tu sais, On peut-tu y laisser un peu de stabilité?
Oui. Je comprends qu'à date, là, il a été beaucoup barouetté là, depuis deux ans, depuis que c'est à tout le repêcher. Je n'ai pas aimé la façon dont on l'a géré à l'âge de 18 ans. Ça, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il y a des choses qui ne trompent pas. Je regarde le gars depuis le hockey junior et j'ai pas vu... À 15 ans, moi, j'ai vu un gars exceptionnel. Et à partir de l'âge de 16 ans, que ce soit peut-être à cause de l'année perdue, à cause de la COVID, je ne sais pas, mais à partir de l'âge de 16-17 ans, son repêchage, j'ai pas vu un gars qui a maintenu son statut de joueur exceptionnel offensivement.
Mm-hmm.
Alors pour moi, Shane Wright, c'est un bon joueur. Est-ce que, d'après moi, ça va être un joueur étoile? La réponse est non. Puis à date, que ce soit dans la Ligue américaine ou son premier mois d'octobre, la tendance, c'est comme ça.
On va le regarder demain soir.
Oui.
Mardi soir, pour ceux qui sont en retard sur le balado. Alors, ça conclut notre bloc sur les Rangers de New York. Mais ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai triché un peu.
Toujours. Tu triches toujours, Mathias, quand vient le temps de parler de ton équipe préférée.
Bien, on parlait de Shane Wright, là.
Oui, OK.
Puis, qu'est-ce qu'il y a derrière toi, là? J'ai pas le choix, moi, si je l'ai d'en face.
Oui.
Cooley ou Shane Wright?
Pardon?
Logan Cooley ou Shane Wright?
Ah, Logan Cooley.
Ah oui.
Ben oui,
OK. Nemeth, par contre, on est moins convaincus, mais là, regarde, on en reparlera.
On en reparlera.
Trust the process. On est rendu au dernier bloc, les questions des auditeurs. Et là, quoique je sois très, très jeune, j'ai pas mes lunettes de lecture. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de lunettes de lecture, mais bon. Fait que je vais faire mon possible. Et on commence avec explicite 5800. T'sais, lui, il savait que j'aurais pas mis le net de lecture. Là, il a voulu me compliquer la vie. Quelle est la différence entre un joueur d'impact et un joueur de concession? Car j'aime pas l'expression concession. C'est quoi un joueur de...
Franchise?
Non, ça aussi, c'est un anglicisme.
Oui. Ah.
Un joueur autour duquel tu reconstruis, mais en tout cas... Cherchons.
Un joueur autour duquel tu bâtis une équipe, mettons. Ouais. Mais tout le monde comprend le mot joueur de concession.
Taze est un joueur autour duquel tu construis une équipe. Patrick Kane, joueur d'impact. McDavid, joueur autour duquel tu bâtis. Drysdale, joueur d'impact.
Bon.
Ah oui?
Moi, je crois que M. Explicite 5800 a peut-être oublié une catégorie entre les deux.
Il n'est pas explicite.
il a peut-être oublié une catégorie entre les deux.
Laquelle?
Ben. Entre concession et impact, il existe les vedettes.
Mais Kane, tu sais, il avait un rôle différent de Taze, oui. Mais pour moi, écoute...
Mais moi, je vais le résumer, qu'est-ce que je pense avec mes trois définitions. Concession, on va faire ce cours. Concession, vedette, impact.
Ouais.
Pour moi, Taze et Kane, c'est vedette. Il n'y en a aucun des deux qui était concession, mais ils étaient tous deux plus que des joueurs d'impact.
Ouais.
Mon avis.
Ouais, OK.
McDavid, concession, on n'en parle pas. Drysdale, c'est plus qu'un joueur d'impact, c'est une vedette.
Mais Taves, là, Taves, tu construis une équipe autour de lui, non?
Bien, je pense que tu élargis la définition. Pour moi, joueur, concession, il n'y en a pas beaucoup.
Patrice Bergeron?
Vedette.
Ah oui?
Oui. J'en en vois pas beaucoup de concessions.
Pourtant, écoute, c'est des joueurs élites. Ça a été le cœur et l'âme.
Concession, j'en vois pas beaucoup, là.
OK, si Drysdale était à Seattle...
Ouais.
Est-ce que c'est un joueur autour duquel tu bâtis?
Ben, oui, mais...
Là, c'est parce qu'il était avec McDavid
mais
que
c'est
tu
pas
dis...
concession. C'est pas Sidney Crosby, c'est pas McDavid, c'est pas un gars qui, finalement, va faire renaître une équipe des centres.
OK. Des joueurs de concession. Je fais une concession. Je suis rendu
très fort.
Fou des jeux de mots.
Très fort.
Nomme-moi donc 10 joueurs de concession dans les 30 dernières années.
Dans les 30 dernières années.
Genre.
Ben,
McDavid.
McDavid, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Steve Eiserman.
Crosby.
Sidney Crosby.
McKinnon.
Carey Price.
Carey Price, oui, parce que.
Malkin. Pas loin.
Edmund.
Non.
Doughty.
Pas loin, mais non.
Fait qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit que M. Explicite a oublié une catégorie. Parce que impact, pour moi, c'est pas suffisant pour décrire un gars comme Patrick Kane ou Leon Draisaitl.
Donc, grande vedette.
Oui.
OK. Limelight, coudonc, c'est la journée des pseudos. Limelight 1960. Ah, je l'ai déjà vu, lui. Ouais. On en avait parlé, j'avais fait un vilain jeu de mots. Devrions-nous nous inquiéter du développement de Quentin Musty s'il n'est pas échangé prochainement? Évidemment, Musty attend un échange dans la Ligue junior de l'Ontario. N'a toujours pas joué.
Alors, un fidèle auditeur qui sait à quel point j'adore Quentin Musty et que je considère le vol du repêchage 2023.
C'est ton deuxième fils préféré après Connell.
Après Trevor Connelly, oui, oui, exact. J'aime pas ça. J'aime pas ça ce qui se passe. Je comprends la situation de Musty. Il a perdu ses deux compagnons de trio à Sudbury. Dalibor Dvorsky, qui est dans la Ligue américaine pour les Blues, et David Goyette, qui a gradué dans la Ligue américaine pour le Kraken de Seattle. Je comprends. Mais tu fais pas ça. Tu vas jouer, puis tu peux demander un échange, c'est correct. Puis de toute façon, il aurait été échangé. Parce que le genre de gars comme Musty à 19 ans va être échangé à une équipe qui va se pacter un club pour la Coupe Mémoriale. Alors, va jouer, tiens-toi en forme, puis là, déçois pas ton équipe. Ouais. Il y avait eu un bon camp d'entraînement, pas parfait, mais un bon camp d'entraînement. On le retourne au junior et monsieur est chez lui. Alors, est-ce que je m'inquiète à long terme? Non. Mais je trouve quand même intéressant que l'échange n'ait pas déjà été réalisé.
Est-ce que pour toi, c'est une préoccupation côté caractère ou pas du tout?
J'aime pas ça, comme je t'ai dit, mais un joueur de 19 ans, j'irai pas l'affubler de qualificatifs, tu sais, comme on a fait avec Mishkov.
Mais ça, c'est son entourage aussi, sûrement.
Ça peut être l'entourage aussi. Non, ça m'inquiète pas trop, mais j'aime pas ça parce qu'un gars à 19 ans, il a besoin de jouer.
Puis t'appartiens à une équipe, t'as 19 ans, t'appartiens à une équipe aussi, là, il est pas dans... Ouais. Et je ne travaille pas dans les mines de sel.
Je sais pas ce que Mike Greer fait dans tout ça. Là. Probablement qu'il doit s'arracher les cheveux sur la tête, mais...
Il n'y en a pas. Ça.
Non, c'est vrai. Mais en tout cas, on se comprend.
Ouais. Ouais. Jean-Thomas Jobin?
Ben oui.
Tiens, le seul
Jean-Thomas Jobin.
Et le seul qui s'identifie parmi les trois. Pour essayer de nous aider à conscientiser l'importance pour des joueurs de talent d'être eux-mêmes entourés de talent, est-ce que McDavid ferait 200 points s'il jouait dans la Ligue américaine pendant une saison complète? Où il en ferait potentiellement moins que dans la Ligue nationale, car il n'aurait pas assez de collaboration et de joueurs pouvant accoter sa créativité.
Bon.
Coudon, il n'est pas supposé être drôle, lui? C'est pas drôle, pantoute.
Non, ben c'est pas drôle. C'était pas fait pour être drôle.
Jean-Thomas,
Même si McDavid dans la Ligue américaine, ça peut être
un peu. Ça, c'est quand même l'esprit de Jean-Thomas.
C'est farfelu, mais c'est pas si farfelu que ça. Ma réponse, moi, je la donnerais en deux étapes. La première, je crois qu'un gars comme McDavid, oui, dans la Ligue américaine, ferait 200 points parce qu'il livrait tout seul ses points. Alors, il n'y aurait pas besoin d'être bien entouré. Ça serait vraiment une farce, là. Mais à un moment donné, j'imagine qu'il y en a qui courraient après avec une hache, là, puis ils casseraient le poignet. Mais en tout cas, je crois que McDavid, oui, il le ferait. Cependant, Jean-Thomas soulève un point intéressant pour des joueurs peut-être de talentueux, mais qui ne sont pas des McDavid, ça peut influencer. Et je vais prendre l'exemple un peu lointain, mais quand même actuel, de Brendan Gallagher, qui, oui, c'est lointain son séjour dans la Ligue américaine, mais c'est quand même actuel dans le sens que c'est un joueur de la Ligue nationale qu'on peut juger selon les dernières saisons. Dans l'année du lockout 2012-2013, à l'automne, il n'y a pas eu de hockey. Brendan Gallagher avait 20 ans, venait de graduer avec le Canadien. Je crois qu'il y a eu un poste en commençant l'année, mais on a décidé de l'envoyer dans la Ligue américaine plutôt que de rien faire. Et moi, Gallagher, je le voyais à Hamilton, puis je me disais, bof. Et là, il est arrivé en janvier avec le Canadien. Il était devenu 100 fois meilleur que dans la Ligue américaine.
J'en ai un mieux pour toi. Donc. Braden Point.
Oui.
Est-ce qu'il ferait 90 points dans la Ligue américaine? Puis c'est pas nécessairement qu'il a besoin d'être entouré, mais tu sais, c'est un cérébral aussi qui nourrit les autres.
Oui, et les autres sont pas toujours... ils se font nourrir, mais...
McDavid, lui, il finit les assiettes des autres,
c'est
là.
C'est ça, oui.
Un peu ça, là.
Oui. Alors, je pense que la question nécessitait deux réponses. Je pense que pour les super vedettes, les Nikita Kucherov, par exemple, qui a joué un peu dans la Ligue américaine pour suivre le thème de la journée... A quand même brûlé la Ligue américaine les 15-20 matchs qu'il a joué. Mais dans le cas de joueurs peut-être de deuxième niveau, des joueurs talentueux, mais qui ne sont pas des locomotives, eux vont peut-être bénéficier davantage du fait de jouer dans la LNH.
Bon. Parlant de joueurs talentueux, tu sais que Jean-Thomas, je ne sais pas si tu es à la retraite officiellement du hockey sur glace,
mais
on s'ennuie de lui.
Mais il est bon quand même.
Il est bon, ben oui. Mm-hmm. On se chicane. Écoute, c'est la petite parenthèse pour finir l'épisode, là. C'est l'être humain le plus gentil au monde, je te jure.
Oui.
Deux fois, il m'a aidé à déménager alors que personne d'autre était disponible.
Mais c'est tu me l'as pas demandé. Gars. Tu me l'as pas demandé.
Puis, tu sais, il ferait pas de mal à une mouche.
Ouais.
Il y a une personne, je pense, qui est capable de le rendre fou sur une patinoire, puis c'est moi. J'arrêtais pas de le gosser.
Mais Mathias,
les replis défensifs.
Tu me rends fou, moi, puis c'est même pas sur la patinoire.
Il venait, il perdait la tête.
Tes textos me rendent fou.
Wow! Alors, sur ça, sur ces belles paroles, heureux de rendre plein de gens heureux. Simon Snake Boisvert, Pag, Pierre-Alexandre Girard, merci beaucoup.
Hey, salut tout le monde, monsieur. On se retrouve sur Patreon vendredi.
Yes.